何？
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Bienvenue pour cette premier épisode de notre nouvelle émission Nani Manga. Salut Jenny.
Salut Julie. Comment ça va?
Eh bien, et toi?
Ça va très bien. Donc du coup aujourd'hui on inaugure une première chronique sur le manga parce qu'on avait un petit peu des questions sur qu'est-ce que le manga, quels sont les genres de manga, et donc on a eu envie de parler de manga mais plutôt de façon générale, thématique, et de sortir un petit peu de ce qu'on avait en tête tous, les shonen, les shoujo, etc. Donc on va parler toutes les deux semaines, c'est ça, de thématiques autour du manga et vous présenter des nouvelles choses pour vous donner envie, ou peut-être pour ceux qui lisent déjà, de découvrir des nouvelles choses. Voilà.
Oui, on va vous parler de l'écosystème du manga, comment ça se fabrique, et des liens aussi entre la France et le Japon. Parce que la France, on dit que c'est le deuxième pays du manga, en termes de lecteurs, lectrices.
Pour l'instant, c'est vrai, mais il y a beaucoup de pays européens qui
s'y mettent.
Oui, les Italiens, les Espagnols sont pas mal dans la bagarre, mais pour l'instant, c'est nous. Et puis, il y a beaucoup de mangas qui sont fabriqués en France maintenant. Voilà, le Japon importe énormément de mangas, mais on commence en faire, quoi. Voilà.
Et pour cette première émission, on a choisi, enfin tu as proposé de parler de Kowloon Generic Romance.
Voilà.
Je te laisse présenter cette romance dystopique.
Voilà. Eh ben, en fait, elle est en cours de production, c'est-à-dire qu'elle est encore éditée au Japon. En France, on les sort assez régulièrement. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir très bientôt, là, dans quelques jours. Et donc, c'est une romance dystopique qui se passe dans un quartier de Hong Kong, un quartier qui a disparu. C'était le quartier de Kowloon, qui était un quartier clandestin. Et Jun Mayuzuki, on n'a pas dit son nom, c'est la mangaka, était fascinée par ce quartier et elle a eu envie, à partir de ce point-là, de venir y écrire une romance. Et c'est une romance qui est dystopique, donc c'est sous couvert d'une histoire d'amour. Elle va développer d'autres thèmes très intéressants. Voilà.
Oui, parce que tu disais qu'il y a un prochain volume de Kowloon qui va sortir. C'est le 8e, je crois, qui doit sortir. On est complètement dans les temps, dans l'actualité, parce qu'il doit sortir le 22 septembre, enfin à peu près.
Voilà.
On le trouvera peut-être à la Vache qui lit.
Oui, parce qu'on ne s'est pas présenté,
mais
effectivement.
Oui.
Julie, donc du coup tu es...
Donc moi Julie, je suis journaliste et toi Jenny, tu es libraire.
Et je suis libraire à La Vache qui lit et passionnée de manga depuis une vingtaine d'années
et de
culture Japon.
Exactement, et donc tu m'as... Parce que moi j'adore le manga, mais j'étais... Moi ma première découverte, je vous passe toutes mes émotions liées à Albator et mon grand amour platonique pour Albator, mes jeux dans ma tête avec Goldorak, etc. Mais mon premier, ma première claque en termes de manga, c'était Akira. D'Otomo,
également.
Si je me trompe pas.
Ouais, pareil.
Et il y a un troisième. Et toi, tu m'as fait connaître grâce à La Vache, en fait, plein de tout ce monde, cet univers hyper riche et qui va bien au-delà des critiques qu'on a pu entendre à une époque sur le manga. Le dessin est très simple, les thèmes sont cucu, c'est hyper genré. Tu nous expliqueras peut-être la différence entre shoujo. Le terme m'échappe.
Le shonen, les shonen. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et puis avant de venir là, je voulais aussi qu'on parle brièvement de notre troisième, du troisième larron de l'aventure Nani Manga, qui n'est pas là. Et c'est Florent qui nous a fait le...
Il nous a fait le générique, en fait. Il nous a bricolé un générique et il va nous faire un logo. Voilà.
Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire Nani Manga?
Alors, Nani, c'est une question. C'est quoi?
Quoi?
Quoi en japonais? Donc ça va... Nani Manga, ça ne veut rien dire en français. J'ai demandé à une japonaise qui m'a dit Nani. Mais on trouvait que ça sonnait bien, donc voilà.
Et donc pour cet album là, pour cette histoire, le 8e tome va sortir en France bientôt. Est-ce qu'il se range dans une catégorie? Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu d'abord comme tu veux, ou l'autrice ou le livre en lui-même, enfin cette série?
Jun Mayuzuki, en fait, elle a déjà sorti des séries en France qui est un peu à la limite entre deux genres, en fait. Elle part toujours d'une base de romance et par-dessus, elle va traiter des thèmes très intéressants sur, pour rappel, après la pluie, on en parlera tout à l'heure. Mais sur ce départ simple, elle va venir coller des choses de société, des préoccupations de son époque. Et elle a fait énormément de styles. Elle a fait des choses érotiques. Elle en parle dans une interview. On vous donnera les détails dans Atom. Elle a fait des petits one-shots érotiques. Elle a fait des choses de très shoujo. Elle a vraiment essayé plein de trucs. Et c'est une autrice qui a... Elle a vraiment un style, des convictions. Elle est vraiment très atypique, je trouve.
On disait que Kowloon, donc ça se passe dans l'ancienne ville, l'ancienne ville qui est vraiment une... On vous invite à aller regarder, à vous renseigner dans des bouquins ou sur Internet, hein, ce qu'était Kowloon, la citadelle de Kowloon, donc un énorme ensemble immobilier qui est très important dans l'histoire de Hong Kong, qui a été utilisé par... y compris par la puissance chinoise que les Britanniques. Et en fait, c'était un peu un lieu où venaient tous les marginaux, les pauvres de Hong Kong. Et il y a une salle d'arcade à Tokyo, je crois, qui s'appelle...
Elle n'est pas à Tokyo, je crois, c'est dans une autre préfecture, mais elle reprend le décor de Kowloon, donc avec ses ruelles un peu sales, sombres, ses rues très étroites. On peut regarder sur Internet, ça se trouve.
Donc la dimension, la ville, ou cette ville qui n'est plus dans le manga, elle prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, et elle amène justement un peu d'étrangeté,
oui,
en fait,
c'est ça.
Je te laisse développer sur la rencontre entre les deux protagonistes principaux.
Alors en fait, les deux, elle s'appelle Kujirai et lui c'est Kondo, je crois. Tous les deux sont japonais, mais ils sont venus s'installer à Kowloon. Lui, il est passionné par cette ville, il y est depuis des années, il n'a pas envie de partir. Et elle vient juste d'arriver. On croit, parce que ça se développe autrement dans la série. Et du coup, ils sont agents immobiliers, voilà. Ils louent des appartements. Et donc, du coup, on se promène souvent dans cette espèce de ville un peu grouillante, un peu fourmillante. Il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps, on a un élément très bizarre, en fait, dans le décor. Un immeuble pyramidal, ou même pas pyramidal, qui flotte dans le ciel et... Elle, Kujirai, est très attirée par cet endroit, tandis que lui, il en a peur et il s'en méfie, en fait. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui les a tenus l'un à l'autre et qui s'est distendu. On n'arrive pas bien à savoir, dans le premier tome, c'est assez étrange, voilà. Donc on part sur une dystopie un peu à la fois vintage, par le décor, et un peu futuriste. Voilà, je trouve sur ces deux tableaux.
Et on va pas vous le décrire, mais à la fin de ce... Donc il y a un élément, ça a l'air d'une romance entre deux collègues de bureau, voilà, un peu classique, avec quand même des petits aménagements dans ce classicisme. Et il y a l'intrusion de ce volume, cette étrangeté dans le ciel qui apparaît très très peu. Et à la fin, les dernières planches, on sent que pour le volume 2, on va partir dans quelque chose de potentiellement inquiétant.
C'est ça, il y a un climax à la fin. Il ne faut pas du tout regarder la dernière page, je le dis à tout le monde. De l'avant-dernière page, c'est une double page, un dessin. Et quand on tourne, c'est la même, mais totalement changée. Il ne faut pas le regarder pour ne pas déflorer l'histoire. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Et elle gère bien son histoire jusqu'à la fin, et voilà.
Ouais, le suspense et le décor qu'elle installe, où le décor devient un élément de l'histoire, en fait. La ville est un élément très important de l'histoire. Et tu utilisais les termes shoujo et seinen tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et est-ce qu'éventuellement Kowloon Generic Romance, ça rentre dans une catégorie ou pas?
Alors, Canal, c'est un peu un truc français, ça, de catégoriser. Les Japonais le font un petit peu moins. Kowloon, lui, est pré-publié, puisque c'est des pré-publications au Japon. Chaque chapitre sort c'est weekly, donc toutes les semaines, un nouveau chapitre. Et il sort dans un magazine qui est seinen, donc qui est pour les adultes. Seinen, ça veut dire grand garçon, adulte. Et pourtant, dans son titre, elle a romance. Donc, c'est une romance, c'est pas du shoujo, parce que shoujo, c'est jeune fille. C'est plutôt un seinen, avec une romance. Parce que c'est pas réservé qu'aux filles.
Mais tu disais que c'était particulièrement français de faire ça, mais en même temps, quand même, par le biais du manga, même si ça a l'air de quelque chose... de très genré, en fait, quand même, les mangas ou les éditeurs japonais, très tôt, même si c'était dans un but peut-être commercial ou de contrairement à des éditeurs français, belges ou autres, se sont intéressés très tôt aux femmes, en fait, à un public dit féminin. Alors peut-être que ça correspondait à des codes très stéréotypés, mais je crois que le premier manga destiné, donc shoujo, si je ne me trompe pas, destiné aux femmes, avec tous les stéréotypes que ça peut convoquer, apparaît dès 1928. Et pendant très longtemps en Europe, une BD destinée aux femmes, même avec des stéréotypes, ça n'existait pas, en fait.
Oui, le public japonais, les japonaises lisent beaucoup de mangas. Et il y a beaucoup de magazines de prépublication qui leur sont destinés. Et en même temps, il y a parfois, par exemple, beaucoup de gens connaissent Junji Ito, qui est un auteur d'horreur. Il fait des dessins qui font vraiment très peur. Et en fait, c'est un lectorat féminin, à la base. C'était édité dans un magazine shoujo, donc plutôt pour les filles, et c'était un magazine d'horreur. Ça a été lu dans les années 2000, quand ça a été édité beaucoup par les hommes. Et puis, ça vient d'être réédité maintenant. Et là, moi, j'ai vu des torrents de jeunes filles venir s'emparer de ça, reprendre le genre qu'elles avaient, qui était destiné. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Il y a des romances pour garçons, il y a vraiment de choses. Alors que nous, on catégorise et puis on a un peu peur d'aller vers des trucs. Faut pas avoir peur, faut essayer.
Et un autre cliché aussi, on dit souvent que, et ça je pense que c'est les gens qui ne connaissent pas, il me semble qu'il y a quelques années, Ségolène Royal avait dénoncé la violence des mangas, des animés japonais, etc. Mais je pense qu'elle ne savait pas ce dont elle parlait.
C'est le club
et on dénonce beaucoup ça d'une part, et aussi le trait hyper lisse. Et en fait, quand on prend le temps de... Comme pour lire n'importe quel bouquin ou n'importe quel style. En fait, c'est extrêmement riche. Les expressions, même si c'est en noir et blanc, on voit bien que la personne est en train de rougir. Ou il y a toute une palette d'émotions qui est véhiculée par les personnages et qu'on ne voit pas si on feuillette rapidement.
Elle est très forte pour ça, John Maizuki, parce qu'elle a un dessin qui est vraiment très beau, mais très expressif. Elle est vraiment, au niveau du dessin, on n'en a pas parlé, mais... Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement douée et elle arrive à nous faire comprendre rien que d'un regard ce qui se passe. Et elle a un dessin qui est vraiment...
Et le cadrage est super important. La succession dans une planche, la succession des vignettes, en fait, des cadres, des bulles, enfin, hyper intéressante. Et il y a une vraie progression dans l'action, mais aussi dans les... C'est parfois un peu statique, contemplatif, et ça dit vraiment beaucoup de choses.
C'est vrai, et souvent la critique qu'on entend, c'est que les mangas, il n'y a que les personnages, il y a très peu de décors. Et là, c'est vraiment pas vrai, parce que justement, on le disait que le décor était un des personnages principaux. Et effectivement, il y a beaucoup de cadrage et elle rythme beaucoup son récit, donc c'est vraiment un super manga.
Et est-ce que Jun Mayuzuki, parce que tu as cité ce qui est sorti, enfin ce qu'il a fait connaître en France avant Kowloon, c'est Après la pluie.
Après la pluie.
Est-ce qu'Après la pluie aussi, c'est l'histoire d'une héroïne?
C'est pareil.
De quoi ça parle, Après la pluie?
Eh bien, en fait, en plus, ce qu'elle disait dans l'interview, on vous donnera son personnage masculin a toujours le même nom. Donc du coup, elle est à plusieurs versions je sais quoi le nom, il faut que je le retrouve. Et donc ça s'appelle Après la pluie, c'est une jeune fille qui s'appelle Tachibana Akira, elle a 17 ans. Elle faisait de l'athlétisme au lycée, elle était très forte et en fait elle se blesse. Et elle perd un peu l'équilibre sur lequel elle était posée. En plus elle était très 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 forte. Et donc elle va arrêter tout d'un coup et elle va se mettre à travailler dans un restaurant familial. On n'a pas ça en France. C'est un resto où on peut manger, la carte est énorme, on peut manger de tout. Et cette jeune fille va être obsédée directement par son patron, une espèce de quarantenaire un peu désabusé, qui commence à se dégarnir, qui a un enfant, qui est célibataire, qui a eu une passion et qui a disparu. Et elle va être obsédée par lui. Et lui, gentiment, il va comprendre ce qui se passe parce que direct, Akira, elle va... En fait, elle met des personnages qui sont assez directs. Et donc du coup elle va aller directement lui dire qu'elle l'aime et lui va prendre des distances et va essayer d'expliquer qu'elle essaie de reporter son manque via la course à pied et donc ça va se créer une espèce d'amitié intergénérationnelle, je vais y arriver, et puis tous les deux ils vont devenir amis et lui va se remettre à l'écriture en se rendant compte qu'il avait laissé ça de côté, il va repartir là-dessus et elle va découvrir la littérature. Donc en fait d'un truc qui pour être un peu craignos dans le pitch, parce que souvent quand j'en parle, un peu cucu, ou même la gamine de 17 ans qui tombe amoureuse d'un monsieur de 40 ans, eh ben elle en fait quelque chose de vraiment super. Et ça a été adapté en animé. Donc Beaucoup de gens l'ont soit lu, soit il y a pas mal de garçons qui me disent qu'ils ont vu l'animé, qu'ils ont trouvé ça très bien.
Et fille ou garçon. Akira, c'est un prénom épicène au Japon.
C'est ça, fille ou garçon, il y en a pas mal, ouais. Ouais. Et souvent, les personnages Akira sont souvent des filles un peu fortes. Je vous engage à regarder un petit peu les dessins. C'est une longue fille, elle fait toujours des filles très élancées. Très...
Forte au sens de oui. Personnalité, volontaire,
oui, volontaire
déterminée.
Déterminée.
Mmh. Okay. Et est-ce que les héroïnes ou les protagonistes de Jun Mayuzuki, est-ce que ils et elles, enfin est-ce que c'est plutôt souvent des femmes?
J'allais dire un peu des deux parce que oui, il y a beaucoup de femmes, il y a autant d'hommes en fait. Mm-hmm. Ils ont tous une caractéristique un peu complexe. On commence à les découvrir au tout début et puis plus on avance dans l'histoire et puis en fin de compte, elle ajoute une petite pièce qui nous fait comprendre le personnage. Elle est vraiment très forte pour ça, autant fille que garçon, elle traite les deux. Très bien, je trouve. Mais effectivement, l'héroïne est souvent féminine. Sauf là, du coup, c'est le couple.
Mmh. Voilà. Et il y a quelque chose aussi avec, qu'on voulait vous faire partager avec notre émission, avec Nani Manga. Donc, découvrir une autrice, un auteur, et puis une série, un album qui nous plaît. Mmh. Plutôt que des choses qui ne nous plaisent pas, parce que les choses qui ne nous plaisent pas, bon, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Mais aussi, on voulait vous expliquer comment fonctionne cet écosystème du manga, parce que ça n'a rien à voir, enfin, ça a peu à voir avec la production ou le statut d'auteur de BD ou d'autrice en France.
Mmh.
Et il y a un personnage crucial qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle, alors je ne vais pas me risquer à le prononcer parce que c'est Jenny, tu parles japonais.
Non,
prends des cours de japonais, donc je vais te laisser prononcer le terme.
C'est un tanto. Tanto, c'est le responsable éditorial qui est... Alors, chaque magazine a plusieurs tanto, et donc c'est toujours des magazines de prépublication, et on donne un tanto à un auteur, et ensemble, ils vont construire une œuvre. Donc souvent, ils arrivent avec une demande. Le magazine vient avec une demande à l'auteur qui accepte ou non, et donc le tanto va l'aider, va l'épauler pour sortir ça. Alors ça peut être un scénariste, mais ils sont jamais cités. Ça peut être la babysitter qui va venir amener à manger parce que il a pas le temps d'aller cuisiner ou quoi que ce soit, et il est vraiment multitâche et il est indispensable. Voilà.
Et c'est souvent des hommes, les tanto?
Non, il doit y avoir des femmes aussi. Bon, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais il y a des femmes aussi, oui.
Donc, en fait, le ou la mangaka fonctionne toujours en binôme, avec ce tanto qui est à la fois un coach, un relecteur, un directeur éditorial, une mère nourricière, ou un père nourricier, je ne sais pas.
Ouais.
Et en fait, un mangaka, il travaille, un ou une mangaka travaille... Et quasiment avec... jamais seul, en fait.
Non, jamais, jamais. Il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de lui, mais effectivement, il a un tanto par œuvre. C'est-à-dire que s'ils sont en train d'éditer plusieurs mangas en même temps, il a plusieurs tanto qui sont responsables de lui.
C'est-à-dire que pour Kaolun, Jun Mayuzuki, elle a un tanto par tome, par volume, ou un tanto pour toute la série?
Ça peut changer. Parfois, il y en a certains qui partent pour X raisons, donc on le remplace. Mais généralement, c'est un tanto qui fait l'œuvre en entier avec elle. Et vraiment, l'histoire, souvent, est assez construite par le tanto. Et elle le dit, en fait, il y en a un qui lui a fait faire sa meilleure œuvre, l'œuvre qu'elle est la plus fière et qui n'a jamais été éditée en France, qui est une œuvre érotique. Et d'un autre côté, elle a changé de tanto pour un autre. Elle avait proposé le pitch, qui était assez drôle, d'ailleurs. Et c'était l'histoire d'une actrice porno qui faisait aussi du rakugo. Le rakugo, c'est un art comique japonais. Et elle pensait faire un chouette manga, et en fait son tanto l'a tellement influencée qu'elle a fait un truc qui ne lui plaît pas du tout, et elle veut absolument pas que ça soit réédité. Elle dit qu'elle voudrait bien même le faire brûler dans un temple pour conjurer le mauvais sort. Voilà.
Mais il est sorti sous son nom quand même.
Il est sorti sous son nom, mais on lui a proposé de le ressortir dans une anthologie, elle a refusé.
Elle a refusé.
Elle dit qu'elle a les planches à la maison et qu'elles vont peut-être passer au... Voilà, le bûcher.
Et donc, en fait, on comprend avec le... Quand tu parles du tanto, pour information, ça s'écrit T-A-N-T-O, avec une petite... Ouais, moi, je dis une petite barre sur le haut, mais en fait, ça apporte un nom plus savant.
Ça s'appelle un macron.
Un macron, voilà, ça s'appelle un macron, la petite barre. Et donc, ce qui fait que le O ne se prononce pas O, mais...
On le prolonge, donc c'est O.
Tanto.
Je ne sais pas si on dit ça très bien.
Donc voilà, on vous a un peu parlé du Tonto, hein, qui est un personnage crucial, pivot, en fait, dans l'économie, dans le système, l'écosystème manga. Mmh. Mais il y a aussi le ou la mangaka, ce qu'on voulait souligner, il est rarement, enfin il est jamais seul. Parce que pour, il y a ce que tu m'expliquais, il y a ce système de pré-publication, en fait.
C'est ça.
Et c'est-à-dire, c'est une chaîne, quand on parle d'écosystème, c'est pas juste pour placer un mot plus ou moins savant. Mmh. C'est-à-dire qu'un mangaka tout seul, en fait, il n'existe pas, parce que non seulement il y a son Tonto, et il y a aussi le public qui va valider les prépublications qui vont permettre, en fait, à c'est une ça. Histoire, un début d'histoire, de devenir un volume, enfin, un volume édité, publié sous forme de livre.
C'est ça. Et le Tonto, lui, va être là pour recadrer, parce que chaque publication, prépublication en magazine, les lecteurs vont pouvoir voter en disant ça m'a plu, ça m'a pas plu, et faire des retouches, en fait. Et donc, le magazine en prend compte, en fait, et demande au Tonto d'aller voir le mangaka et de lui demander d'enlever cette bout de l'histoire ou d'essayer de l'arrêter et de passer sur autre chose. Donc après, le mangaka soit résiste et dit non, je fais comme je veux, soit il se laisse influencer, comme on disait, ou ça peut le mener vers quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Mais généralement,
Mais il ou elle peut résister, peut dire non, ça me va pas ou...
Ouais, John Miyazaki disait que maintenant, elle ne se laisserait plus faire, elle avait eu cette expérience-là et on peut résister, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est...
Est-ce qu'on peut affirmer sa position d'auteur ou d'autrice et maintenir son point de vue, son trait, son
tout
ce
à
qu'on
fait.
Veut mettre D'accord.
Ouais. Alors après, je ne sais pas quelle liberté il leur laisse, mais en fait, ils peuvent... avoir une discussion à deux.
Mais ça passe forcément par une prépublication. Est-ce que ça veut dire, moi par exemple, si j'ai une histoire en tête, pour la publier au Japon, je vais forcément devoir trouver d'abord donc un éditeur ou une éditrice?
Déjà, je pense que les mangaka débutants font des doshinji, c'est des petits fanzines, voilà. Et si le fanzine marche bien ou si le fanzine est repéré par un éditeur, on lui propose de faire un concours. Il y a pas mal de concours, et s'ils gagnent le concours, il y a plusieurs prix, et dans les deux premiers, on édite leur histoire, voilà, ou même le premier, on édite leur histoire. Donc c'est la première étape, en fait, gagner un concours, être repéré par le magazine de prépublication, et après, aller proposer un autre manga, et hop, on rentre dans l'industrie de cette manière-là. Voilà.
Et c'est encore plus un écosystème, dans le sens où souvent le manga livre, la bande dessinée, quoi, parce que manga, ça veut dire bande dessinée, est souvent développé sous forme d'animé, de personnages, de voilà, il y a toute une économie, en fait, qui se met en place autour d'une histoire.
Énorme, et effectivement, chaque manga, et on le voit de plus en plus maintenant, chaque manga qui marche aura sa déclinaison en animé. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire du manga et qui aiment bien l'histoire, il ne faut pas hésiter à aller regarder les animés, il y en a des vraiment très très bien. Donc pratiquement toutes les séries maintenant sont adaptées. En film ou en série.
Toi qui parles un peu japonais, est-ce que tu dirais...
Très facilement.
Ou est-ce que tu es capable, ou tu as pu échanger avec des amis ou japonais, japonaises, est-ce que parce que ça véhicule tellement de l'histoire et de la culture et des pratiques sociales, culturelles et sociales japonaises, est-ce que la traduction, est-ce qu'il y a une déperdition en français, ou est-ce que ça, on arrive à maintenir quand même l'esprit vraiment du manga? Est-ce que vivent les personnages, les protagonistes?
Je pense qu'il y a des mangas qui doivent être plus facilement traduisibles. Il y en a certains qui font avec des tous les mangas, les gags mangas, tout ça, ça doit être très difficile à traduire. Et je connais un ami qui est traducteur de manga, et ça dépend vraiment des œuvres. Il y en a certaines où ça doit être vraiment très facile à traduire, et d'autres, je pense qu'on y perd le sel, en fait. Je pense que les lecteurs japonais doivent vraiment se marrer sur certains trucs et nous le trouver complètement inintéressant. Donc, ouais, ça dépend du traducteur et de son habileté à traduire. Mmh.
Et en faisant des recherches pour Nanimanga épisode 1, J'ai lu que le confinement n'avait pas fait que des malheureux et des malheureuses. Non. En fait, il y a eu une explosion des ventes de... En fait, il y a eu un double effet. Il y a eu une explosion des audiences sur des plateformes, etc., d'animés. Et il y a eu un rebond, en fait. C'est que les gens qui regardaient ces animés sur X plateformes ou chaînes, une partie d'entre eux, quand même, ont voulu aussi acheter les mangas. Et en fait, les ventes de mangas ont explosé pendant le confinement et post-confinement dans les librairies. Je lisais qu'il y avait une... Je vais peut-être pas la citer pour pas lui faire de la pub, mais une célèbre librairie à Bordeaux qui a ouvert 100 mètres carrés, qui dédie 100 mètres carrés uniquement au manga. Et en fait, tout le manga porte l'économie française de la BD, en fait.
C'est en train de retomber un peu. Ah oui. C'est en train de se tasser. Il y a eu deux années, je crois, qui étaient vraiment incroyables. Et là, on est en train de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus... C'est toujours très haut, hein, mais c'est plus dans les... Voilà, c'est en train de revenir un petit peu plus raisonnable. Il y a le recul du marché qui est assez... qui se creuse un petit peu. On redevient raisonnable.
Et pour revenir sur Jun Miyazaki, en fait, elle avait, puisqu'on parle des éditeurs et du marché des lecteurs et des lectrices françaises de manga et du marché français, c'est elle qui a dessiné l'affiche du Festival d'Angoulême dernière, c'est ça ?
C'était l'année dernière, c'était pour le... je crois que ça, c'était mars 2022. Angoulême n'a pas pu se tenir en janvier, puisque... alerte Covid, voilà, c'était un peu difficile. Il l'avait reporté au mois de mars et donc elle aurait dû venir, mais à cause de la guerre en Ukraine, les avions ne pouvant pas passer au-dessus du territoire russe, elle n'a pas pu être là, mais j'ai pu assister à la conférence qui avait été enregistrée et elle avait aussi fait l'affiche
du festival.
Voilà, une des affiches, parce qu'ils en font 3 ou 4 à chaque fois. Donc elle était présente.
De la 22e édition.
Exactement. Et elle ne montre jamais son visage. On la voit très rarement. D'ailleurs, nous, on a eu la chance de la voir à visage découvert. Mais si vous cherchez, vous la verrez toujours.
Elle apparaît souvent avec un masque.
Elle se dessine un masque. Oui, oui. Pour ne pas être connue.
Et notre émission aussi, c'est l'occasion de vous faire connaître des petits bouts, des petits pans de musique japonaise. Mm-hmm. Donc, grâce à Florent, on a fait une petite sélection. On vous a proposé, je te laisse présenter le morceau, Jenny.
Aujourd'hui, c'est donc Bamboo House. C'est un morceau qui a été écrit par Ryuichi Sakamoto avec David Sylvain. Voilà, ça doit dater des années 80. Et on voulait faire un clin d'œil puisque Ryuichi Sakamoto est décédé cette année, il y a très peu de temps. Donc, voilà.
Un très très grand compositeur japonais. Pour les plus les plus cinéphiles ou les plus vieux et vieilles parmi vous auditeurs auditrices, il a fait c'est lui qui avait fait la musique de Furio
et il a fait énormément des choses qu'on ne croirait pas, mais il a fait aussi beaucoup de pop, de city pop, donc on aura l'occasion de vous faire écouter d'autres morceaux, je pense, de Yellow Magic Orchestra pour ceux qui connaissent.
Et donc ainsi se termine cette premier épisode de Nani Manga, l'émission dédiée au manga sur Radio Pays d'Hero et RPH Sud. On laissera sur le site de la radio nos coordonnées, les liens, enfin les livres, les ouvrages dont on a parlé, les auteurs, les autrices, les mangakas qu'on a cités. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nani Manga. Salut Jenny.
Salut Julie, à bientôt.
もうほとんど残る。